Chapitre 47. Trois agents du commissariat de Vernon ratissent le lit du rue, décimètre carré par décimètre carré. Ils n'y mettent pas une intense conviction. Le maire de Giverny leur a affirmé que la rivière était nettoyée tous les mois par les agents verts de la commune. « C'est la moindre des choses », a-t-il ajouté. Ce minuscule rue revendique le titre de première rivière impressionniste de France. Cela mérite bien quelques égards. Le maire n'a pas menti. Les agents pêcheurs ne retirent du fond vaseux que peu de détritus. Quelques papiers gras, des capsules de soda, des os de poulet. Dire que toute cette merde sera examinée par la police scientifique. Silvio Benavides peine à maintenir ouvertes ses paupières. Il se dit que si ça continue, il va s'endormir là, dans l'eau. Il pense que ça arrive vite, ces choses-là. On s'assoupit. Avec un peu de malchance, on tombe le crâne sur une pierre, une entaille, pas grave, mais qui suffit à vous assommer sur le cou, qui suffit à faire glisser votre tête dans l'eau, sous l'eau, à vous noyer, au bout du compte. Silvio a des idées noires ce matin. Après avoir raccroché hier avec Lorenz Serenac, il n'a pas pu se rendormir. Les infirmières voulaient qu'il rentre chez lui, mais pas question. Être flic présente quelques privilèges. Il a passé la nuit à regarder Béatrice dormir et à somnoler sur deux chaises de la salle d'attente face aux affiches qui dénoncent les méfaits de la cigarette et de l'alcool chez les femmes enceintes. Il a eu le temps de penser et repenser à ces putains de trois colonnes, toujours aussi cloisonnées. Amante, nymphéa, gosse. À faire le point sur ces mystères qui s'accumulent depuis quelques jours. Que penser de ces légendaires nymphéas en noir? Amadou Candy devait être au courant, bien entendu. Morval aussi. Et que vient faire dans cette histoire l'accident de ce gamin, Albert Rosalba, en 1937, à cet endroit précis? Cette carte postale d'un gamin de 11 ans, illustrée d'une reproduction de nymphéas et d'une citation d'Aragon. Et pourquoi Aragon? Pourquoi cette citation? Le crime de rêver, je consens qu'on l'instaure. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Pourquoi ces nombres au dos des photos des maîtresses de Morval? Il devine pourtant, il le sent, que toutes ces pièces s'emboîtent, qu'il ne faut en négliger aucune, que toutes ont leur importance. Il observe Serenac. Il n'est pas facile de déterminer s'il est particulièrement concentré sur les méthodes de datation du sédimentologue ou s'il se désintéresse de toute cette opération. Le problème, c'est que la technique du puzzle, ce n'est pas vraiment la méthode du patron. Côté sac de nœuds, Serenac aurait plutôt tendance à ne vouloir tirer que sur un fil de la pelote. Fort, très fort. Silvio a l'impression que ce n'est pas la solution, que cela ne fera qu'en mêler davantage le tout. Et que tout ce que risque Serenac, c'est que le fil lui pète entre les doigts. Il sera bien avancé. Silvio note que Louvel vient de désensabler sa troisième bouteille de plastique. Elle n'est pas si nickel que cela, si on la fouille en profondeur, la voie fluviale royale de l'impressionnisme. Le sédimentologue analyse toutes les pièces exhumées avec un systématisme professionnel, histoire de confirmer que si elles n'ont pas connu Claude Monet vivant, elles n'ont pas croisé, à l'inverse, le cadavre de Jérôme Morval. Silvio repense à Serenac. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de lui expliquer à son chef. Il est d'accord, Serenac, d'accord avec tout. Les colonnes, les mystères, l'imbroglio total. Mais ça ne l'empêche pas de s'enfermer dans son intuition. Pour lui, tout tourne autour de Stéphanie Dupin. L'institutrice est en danger. Ce danger a un nom. Jacques Dupin. Il ne sort pas de là. Objectivement, s'il examine les faits, Silvio trouve que l'institutrice a autant le profil d'une suspecte que d'une victime potentielle. Il l'a dit à Serenac, mais cette tête de mule d'albigeois a l'air de préférer suivre son instinct que les faits objectifs. Qu'est-ce qu'il y peut ? Il y a beaucoup pensé cette nuit. Silvio est comme Béatrice. Il l'aime bien, au fond, Sérénac. Paradoxalement, même s'ils sont différents, il apprécie de bosser en binôme avec lui. Une question de complémentarité, peut-être. Mais il a comme l'impression que Sérénac ne fera pas long feu au commissariat de Vernon. Ça sent la mutation express. Les intuitions, dans le Nord, c'est pas trop la méthode. Surtout quand ces intuitions sont moins influencées par ce qui s'agite dans le cerveau d'un flic que par ce qui se passe dans son pantalon.
Je crois que j'ai quelque chose.
C'est l'agent Louvel qui a crié. Aussitôt, tous les flics s'approchent. Louvel plonge deux mains dans le sable et en ressort un objet rectangulaire, assez plat. Le sédimentologue tend une caisse de plastique pour que le sable s'écoule dedans. Progressivement, on devine ce que le policier tient dans les mains. Bientôt, il n'y a plus de doute. L'agent Louvel a découvert une boîte de peinture en bois. Silvio soupire. Encore un coup pour rien, pense-t-il. C'est sans doute un peintre qui l'aura laissé là pour avoir voulu peindre trop près de la rivière.
N'importe qui.
En tout cas pas Morval. Il collectionnait les tableaux, mais il ne peignait pas. Louvel pose sa trouvaille sur la berge, pendant que le sédimentologue verse le sable qui recouvrait la boîte de peinture dans ses tamis et entonnoirs. Le sable file.
Depuis combien de temps est-elle là ? Demande l'agent Maury qui s'intéresse à ces choses-là.
Le sédimentologue examine un cadran dans le plus petit des entonnoirs.
Moins de 10 jours, tout au plus. Cette boîte est tombée dans la rue entre hier, au plus tôt, et disons le jour de l'assassinat de Morval, au plus tard. Je me fie à la pluie qui est tombée le 17 mai. Les alluvions charriées pendant l'averse sont caractéristiques. Elles viennent de l'amont, et il n'a pas plu depuis. Je me donne une marge de 5 jours avant et 5 jours après.
Silvio se rapproche de la rive. Ça l'intrigue maintenant, cette découverte. La boîte de peinture est donc ensablée dans le ruisseau depuis 10 jours au plus. La date pourrait correspondre au meurtre. Sérénac, lui aussi, s'est avancé. Ils sont tous les deux à moins d'un mètre de la boîte en bois.
« Je t'en prie, Silvio, » fait Sérénac. « À toi l'honneur. Tu as bien mérité d'être le premier à ouvrir ce trésor, »
ajoute-t-il en adressant un clin d'œil à son adjoint.
« Mais on partage le butin en 5 parts égales. »«
Comme les pirates.
T'as tout compris. »
Ludovic Maury se marre derrière eux. L'inspecteur Benavides ne se fait pas prier et porte la boîte de peinture à quelques centimètres de ses yeux. Le bois est ancien, laqué. Curieusement, très peu abîmé, malgré son séjour dans l'eau. Seules les charnières de fer apparaissent, rouillées. Silvio déchiffre, un peu effacé, ce qui lui semble une marque. Windsor et Newton, inscrites en lettres capitales sous un logo figurant une sorte de dragon ailé. En plus petit, un sous-titre précise « The World's Finest Artist's Materials ». Il n'y connaît rien, mais Benavides suppose que c'est un bel objet, prestigieux, américain, ancien. Il faudra vérifier.
Alors, s'impatiente Sérénac, tu l'ouvres ton coffre? On veut savoir ce qu'on a trouvé. Pièces d'or, bijoux, cartes de l'Eldorado.
Ludovic Maury éclate encore de rire. Ce n'est pas facile de savoir si l'agent apprécie réellement l'humour de son patron ou s'il en rajoute. Silvio, sans pour autant se presser, fait jouer les charnières rouillées. La boîte s'ouvre, comme si elle était neuve, comme si elle avait servi encore hier. Silvio s'attend à trouver des pinceaux, des tubes de peinture trempés, une palette, une éponge, rien de particulier.
Mon Dieu !
L'inspecteur Benavides a failli en lâcher la boîte dans le ruisseau.
Mon Dieu !
Tout se bouscule dans sa tête. Et s'il s'était trompé depuis le début, et si c'était Sérénac qui avait raison? Il crispe ses doigts sur le bois et crie.
« Nom de Dieu, patron, venez voir ça! Vite, venez voir ça !»
Sérénac approche d'un pas, Maury et Louvel également. La stupeur de l'inspecteur Benavides
les accueillit par surprise. Silvio Benavides tient la boîte ouverte devant leurs yeux. Les policiers fixent les pans de bois avec le recueillement craintif d'orthodoxes devant une icône byzantine. Tous lisent le même message, gravé au couteau sur le bois clair de la boîte. Elle est à moi, ici, maintenant et pour toujours. Le texte gravé est suivi de deux entailles qui se croisent. Une croix, une menace de mort.
« Bordel !» hurle l'inspecteur Serenac. « Quelqu'un a balancé cette boîte dans le ruisseau il y a moins de 10 jours. Peut-être même le jour où Morval a été assassiné. »
Il essuie de sa manche la sueur qui perle sur son front. Poursuit.
« Silvio, tu me trouves illico un expert en graphologie. » Et tu me compares ce message gravé sur le bois à l'écriture de tous les cocus du village. Et tu me mets Jacques Dupin en premier sur la liste.
Serenac regarde sa montre. Il est 11h30.
Et je veux ça avant ce soir.
Il regarde longuement le lavoir juste en face. Il laisse retomber l'excitation et adresse un sourire sincère aux 4 hommes qui l'entourent.
Bien joué, les garçons. On termine vite la fouille de la rivière et on libère les lieux. Je pense qu'on a pêché le plus gros poisson qui s'y cachait.
Il lève un pouce vers l'agent Maury.
C'est une putain d'idée lumineuse que t'as eue là, Ludo. Draguer la rivière. On tient une preuve, les gars, enfin!
Maury n'en peut plus. Il sourit comme un gosse qui a reçu un bon point. De son côté, Silvio Benavides, par habitude, se méfie des enthousiasmes trop précipités. Pour son patron, le L du message, « Elle est à moi, ici, maintenant et pour toujours », ne peut désigner qu'une femme. Et la menace a obligatoirement été rédigée par un mari jaloux. De préférence, Jacques Dupin. Mais, pense Silvio, le « L » du message pourrait au contraire désigner n'importe quoi, n'importe qui, pas forcément une femme. « Elle est à moi » pourrait aussi se rapporter à une enfant de 11 ans, ou à n'importe quel objet féminin. Une peinture, par exemple. Les policiers continuent méthodiquement la fouille de la rivière, avec de moins en moins de conviction. Ils ne déterrent plus que de rares détritus. Doucement, le soleil tourne et l'ombre du donjon du moulin des Chenevières recouvre la scène du crime que les policiers commencent à quitter. Avant de partir, Silvio Benavides lève plusieurs fois les yeux vers la tour du moulin. Il jurerait avoir vu un rideau s'agiter tout en haut, au 4e étage. L'instant suivant, il a déjà oublié. Il a bien d'autres choses à penser.